Quand de simples gestes routiniers de la vie, comme s'étirer, se pencher ou trébucher, deviennent des facteurs de risque de fracture, votre vie change. Bienvenue au podcast du groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs.
Que les fractures de fragilisation, là, ça peut conduire à un séjour en admission là, en soins de longue durée, ça peut donner un handicap, des douleurs chroniques. Ça a une influence sur la qualité de vie, c'est certain, puis ça peut même augmenter la mortalité. Donc, c'est pas un problème banal et c'est un problème qui coûte très cher aussi.
Il sera animé par Dr. Eddie Lang, professeur, médecin d'urgence et membre du groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs, avec son invité du jour, Dr. Guylaine Thériault, co-présidente du même groupe et présidente du groupe de travail sur les fractures de fragilisation.
Bonjour Guylaine.
Bonjour Eddie.
Bon, Dr. Thériault est également médecin de famille et directeur du Centre d'éducation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill. Pour cet podcast, on a préparé plusieurs questions et je commence par vous remercier d'être venu aujourd'hui de discuter avec moi, Dr. Thériault. On a la récente publication de la ligne directrice du groupe d'études présente les recommandations sur le dépistage pour la prévention primaire des fractures de fragilisation. Alors, pour débuter, la première question, c'est peut-être juste pour que tout le monde comprenne le sujet. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs, c'est quoi exactement une fracture de fragilisation?
Oui, bien, en fait, je pense que beaucoup d'auditeurs savent probablement déjà ce que c'est, mais pour, comme vous dites, être certain qu'on parle de la même chose, une fracture de fragilisation, c'est en fait une fracture qui va se manifester à la suite d'un traumatisme qui est mineur. Donc, qui aurait un traumatisme qui n'aurait pas dû causer de fracture normalement. Par exemple, si moi je suis debout puis je tombe simplement de ma hauteur, je ne devrais pas me fracturer. Mais chez certaines personnes, ça arrive et c'est ce qu'on appelle une fracture de fragilisation. Et les fractures de fragilisation les plus fréquentes, on parle de poignet, on parle d'humérus, on parle de hanche aussi. Donc, une fracture de hanche, c'est quand même plus important, souvent dans la vie d'une personne. Et on parle des fractures vertébrales. Puis, j'aimerais seulement noter que quand on a regardé les données, on s'est concentré sur les fractures vertébrales qui étaient symptomatiques. Parce que des fois, il y en a des asymptomatiques, mais on trouvait vraiment que pour les issues cliniques qui sont plus reliées là, au bien-être du patient, on s'est concentré sur celles qui étaient symptomatiques.
Bon, c'est super clair, Guylaine, merci. Mais quelle est la pratique actuelle de dépistage visant à prévenir ces fractures?
C'est facile à répondre. C'est difficile de vraiment avoir un portrait. Je pense sincèrement, et plusieurs de mes collègues diraient la même chose, que c'est assez hétérogène. Ça varie d'une province à l'autre. Je pense que ça varie même d'une région à l'autre. Ce qu'on sait, par exemple, ce qu'on voit souvent, c'est que les femmes sont encouragés à faire une ostéodensitométrie là, souvent dès la ménopause, donc dans la cinquantaine. Je n'ai pas de données numériques récentes, mais j'ai une donnée de 2009 où une femme, si on prend les femmes entre 50 et 64 ans, là, une femme sur trois rapportait avoir eu une ostéodensitométrie. Puis si on prend les données chez les hommes, ben, c'était un homme sur 10 qui rapportait avoir eu une ostéodensitométrie. Donc, quand on sait que chez ces deux populations-là, donc les femmes 50 à 64 ans puis les hommes, il n'y a pas d'études qui démontrent un bénéfice, c'est quand même surprenant. Parce qu'un tiers des femmes chez une population qui n'est pas nécessairement à haut risque, quand il n'y a pas de bénéfice prouvé au dépistage, c'est quand même beaucoup.
Super. Alors, peut-être parlons d'une question plus clinique. Quel indice provenant, par exemple, de vos patients vous inspire à faire un dépistage de fracture de fragilisation?
Donc, il y a des facteurs de risque qui sont bien connus. Hein? Il y a des choses qui augmentent le risque, comme, et là, je pense que les auditeurs vont dire, ah oui, c'est sûr, je savais ça, là. La prise de glucocorticoïdes sur une période prolongée. Ça augmente le risque de fracture de fragilisation. Mais des choses aussi simples que l'âge. Donc, quand on vieillit, notre risque augmente. Le fait d'avoir déjà eu une fracture de fragilisation, ça augmente notre risque. Puis aussi, le fait d'avoir un indice de masse corporelle qui est faible, ça, c'est tout d'autres facteurs de risque. Donc, c'est dur de se rappeler de tout ça, mais il existe un outil qui s'appelle le FRAX. Et dans le FRAX, on peut entrer ces données-là et ça permet de calculer le risque de fracture sur 10 ans. En fait, ça nous donne le risque de fracture majeur et le risque de fracture de hanche. D'autres facteurs de risque qui nous sont demandés, comme le tabagisme, la prise d'alcool, si la personne qu'on a devant nous là, avait un père ou une mère qui avait une fracture de hanche, si la personne a un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde ou d'autres maladies là, qui pourraient être liées à la perte de densité osseuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les études qui ont démontré un bénéfice chez les femmes de 65 ans et plus, c'était toutes les femmes qui étaient invitées à participer. Les seules qui étaient vraiment exclues étaient celles qui prenaient déjà des bisphosphonates, des médicaments pour prévenir la dégradation de la densité osseuse. Donc, comme vous allez le voir dans nos recommandations tout à l'heure, quand je vais vous les formuler, bien, le fait d'être une femme et d'avoir plus de 65 ans, bien là, si je veux répondre à votre question, c'est vraiment ça qui fait que je pense ou qu'on devrait penser à dépister.
Wow, c'est super intéressant, Guylaine. Mais parlons donc des effets de la pratique de dépistage, les effets actuels sur votre pratique en tant que médecin, les effets sur vos patients et sur le système de santé de manière générale.
Donc, la pratique actuelle, de la façon dont je l'aperçois, implique très peu les patients dans la prise de décision, autant la décision de dépister que la décision de traiter. Et puis, la décision de traitement est souvent basée sur un seuil arbitraire. Donc, dans la pratique, on fait souvent un ODM, puis si le risque de fracture est supérieur à 20%, on suggère une médication. Mais ça, sans expliquer les bénéfices et les préjudices potentiels de la médication. Donc, on s'est penché sur le sujet, puis une des revues systématiques qu'on a réalisées au groupe d'études, c'est une revue systématique sur les valeurs et préférences des patients. Et on se rend compte que les patients sont intéressés au dépistage, hein, comme pour tout dépistage. Hein, la plupart des patients sont intéressés, mais lorsqu'on arrive aux questions face à la prise d'une médication, lorsqu'elles connaissent leurs risques ou devant des situations hypothétiques, ben là, les patientes sont beaucoup moins enclines à désirer un traitement préventif qu'on pourrait le penser. Donc, face à ces données-là, je pense que c'est difficile de continuer à juste prescrire des tests et des traitements sans bien informer les patientes. Donc, ça, c'est vraiment une différence. Je pense que notre recommandation va influencer à vraiment faire participer les femmes plus dans ces décisions-là. Parce que là, en ce moment, on envoie, il y a certainement des patientes qu'on envoie pour une ostéodensitométrie qui n'auraient probablement pas voulu ce test-là s'ils avaient été informés. Puis à l'inverse, si on n'a pas eu une bonne discussion, bien, on peut avoir des femmes qui ne prendront pas leur médication. Et on sait que juste de faire un test de dépistage, c'est pas ça qui va prévenir les fractures, c'est vraiment la prise de médication. Donc, si on a bien informé la patiente et qu'au bout de tout ce dépistage-là, elle décide de prendre une médication, bien, elle risque d'être plus adhérente à cette médication-là. Donc, c'est un peu ça que je vois les effets de la pratique actuelle. Je pense qu'il faut changer un peu notre façon d'intégrer les patientes dans ces décisions-là.
Excellent. Alors, c'est pas mal clair. C'est quoi qui a motivé la publication de cette nouvelle ligne directrice? Y a-t-il autre chose qui a motivé la publication à ce moment-là?
Oui, ben juste pour mettre ça très clair, les fractures de fragilité, c'est pas banal. Ça a des conséquences qui sont importantes. Et ça, on a considéré ça dans la décision d'écrire cette ligne directrice-là. Parce que les fractures de fragilisation, là, ça peut conduire à un séjour en admission là, en soins de longue durée, ça peut donner un handicap, des douleurs chroniques, ça a une influence sur la qualité de vie, c'est certain, puis ça peut même augmenter la mortalité. Donc, c'est pas un problème banal et c'est un problème qui coûte très cher aussi. En 2016, les coûts estimés au Canada là, étaient à la hauteur de 4,6 milliards de dollars. Donc, c'est quand même énorme. Donc, ça, c'est une partie du fait qui a motivé cette ligne directrice-là. L'autre partie, c'est un peu comme je l'expliquais au tout début, il y a une grande variabilité dans les pratiques de dépistage entre les cliniciens, dépendant de leur zone géographique ou même peut-être de l'année qu'ils ont gradué. Alors, avec ces deux items-là, parce qu'on a cru bon que ça valait la peine de fouiller la littérature pour mieux comprendre comment, ben, premièrement, si ce dépistage-là peut aider, mais aussi comment ce dépistage-là peut améliorer la santé des Canadiens puis des Canadiennes.
Est-ce que vous avez couvert le concept de l'ostéoporose dans la ligne directrice?
L'ostéoporose, en fait, c'est juste un terme qu'on applique à un seuil. hein, un score T. Je pense que les auditeurs ici vont être familiers avec ça, hein, qui compare la densité osseuse avec une personne plus jeune. Et là, on dit, ben, en haut de temps, plutôt en bas de 2 points, moins 2,5 de score T, on parle d'ostéoporose. Donc, c'est comme si on applique un nom, on donne le nom à une maladie qui, en fait, est un facteur de risque parce que la densité osseuse plus faible est un des facteurs de risque, puis je vous en ai nommé plusieurs autres tout à l'heure, là, facteurs de risque. Donc, notre ligne directrice ne parle pas d'ostéoporose, mais bien de prévention des fractures de fragilité.
Super
Oh.
intéressant. Une go pratique, quelles sont les principales recommandations de cette nouvelle ligne directrice et c'est quoi les sujets spécifiques qui vont être couverts?
Mais en fait, vraiment, on parle de dépistage ici, donc de comment on peut dépister et qui on peut dépister. Recommandons, en fait, la ligne directrice recommande le dépistage des femmes de 65 ans et plus. Cette recommandation est basée sur une méta-analyse de 4 études, dont 3 sont très récentes, hein, publiées là, depuis 2018 seulement. Puis quand on combine ces études-là, puis qu'on prend les résultats de cette méta-analyse-là, puis qu'on les applique à la réalité canadienne, donc à l'incidence des fractures au Canada, ce qu'on note, c'est une réduction de 12 fractures majeures et 4 fractures de hanche par 1 000 femmes de 65 ans et plus dépistées. Donc, on a considéré que cette réduction-là était significative et importante comparé au risque d'une médication. Et donc, la recommandation est en faveur du dépistage pour les femmes de 65 ans. Pour ce qui est des femmes de 40 à 64 ans et des hommes, bien, on ne recommande pas le dépistage. En fait, on en fait même une recommandation forte parce qu'il n'y a pas de données, il n'y a pas d'études qui prouvent un bénéfice dans ces populations. Donc, si je reviens aux femmes de 65 ans et plus, en fait, ce qu'on recommande, c'est non pas de commencer par une ostéodensitométrie, mais de commencer avec le FRAX. Donc, de commencer à évaluer le risque de fracture de fragilité et là, d'avoir une décision partagée avec la personne, la femme, en fait, qui est devant nous, en lui expliquant, ben, voici votre risque et voici ce qu'une médication pourrait faire pour diminuer votre risque. Si à ce moment-là, la femme n'est pas intéressée dans une médication préventive, ben, le dépistage s'arrête tout simplement là. Si la femme est intéressée par une médication préventive, là, on recommande de faire une ostéodensitométrie et avec le résultat, de recalculer rapidement le risque pour s'assurer qu'il est similaire et là, de prescrire une médication, là, bien sûr, en rediscutant, là, avec la femme. Je veux juste noter une chose. C'est pas parce que l'ostéodensitométrie amène plus de précision au FRAX. En fait, le FRAX seul, sans ostéodensitométrie, est aussi bon, si vous voulez, que quand il est associé à l'ostéodensitométrie pour estimer le risque de fracture. C'est simplement qu'il n'y a aucune donnée dans la littérature qui nous permet de dire oui, on peut tout simplement traiter à partir d'un risque sans faire une ostéodensitométrie. Et c'est aussi parce que dans les études qu'on a, les femmes avaient une estimation de leur risque et quand elles étaient assez à risque, avaient une ostéodensitométrie avant d'avoir une molécule, souvent un bisphosphonate, là, pour diminuer leur risque. Donc, c'est pour ça que la recommandation est structurée comme ça. Donc, si je peux juste le répéter, c'est en deux étapes. On calcule le risque, on a une discussion, on parle des pour et des contre, du risque comme tel, des pour et des contre d'une médication potentielle. Et si la femme décide que c'est pas pour elle, le dépistage s'arrête là. Sinon, on fait une ostéodensitométrie, on recalcule notre risque et on prescrit une médication si la femme maintient son désir d'avoir une médication. Donc, de l'avis du groupe d'études canadien, la réduction des fractures de hanche et des fractures de fragilité, je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, ça surpasse là, les effets indésirables d'une éventuelle médication. Alors, c'est pour ça que la recommandation, elle est pour, mais conditionnelle au fait que les femmes soient bien informées des bénéfices et préjudices potentiels. Est-ce que ça répond à votre question, docteur
Oui,
Martin?
absolument, c'est super, super clair, merci. Mais parlons donc maintenant de l'impact. Quelles seraient les retombées de l'application de ces recommandations sur la pratique médicale au Canada si les recommandations sont suivies?
C'est difficile à prévoir, mais comme moi, j'applique moi-même cette façon de faire-là depuis plusieurs années, puis ce que je vois, c'est que je prescris beaucoup moins d'ostéodensitométrie. Donc, je crois qu'il est possible, si cette recommandation-là est suivie, qu'on voit moins de demandes d'ostéodensitométrie, mais surtout qu'on voit beaucoup plus de patients qui sont informés de leurs risques d'une façon transparente et qui sont donc capables de prendre des décisions là, sur la prévention de ce problème de fracture-là. Donc c'est ça, des patients mieux informés, moins de tests pour rien, donc une utilisation plus judicieuse là, de nos ressources et tout cela en utilisant ces tests-là et cette façon de faire-là chez les patientes qui peuvent en bénéficier, pour lesquelles on a des données qui nous prouvent qu'elles peuvent en bénéficier.
C'est sûr. Et des patients qui sont plus capables de participer dans la décision partagée.
Effectivement, oui.
Mais vous savez que les médecins sont très occupés, les médecins de famille sont très occupés ces jours-ci. Diriez-vous que l'application de ces recommandations entraînerait un gain de temps pour les cliniciens et sa non-application une perte de temps?
C'est vraiment une question intéressante. Puis, il y a vraiment pas longtemps, en février de cette année, Dr. Mina Johansson de la Suède a publié un article vraiment très important dans le British Medical Journal où elle discute d'un concept qu'elle appelle, et c'est un nouveau concept, le temps nécessaire à traiter. Donc là, je fais juste un aparté. Ce n'est pas le nombre nécessaire à traiter que plusieurs des gens qui nous écoutent connaissent peut-être, mais c'est bien le temps que ça prend aux cliniciens pour mettre en œuvre une recommandation, comme la recommandation qu'on a aujourd'hui, par exemple. Donc, on a fait l'exercice d'estimer le temps que ça prend à un clinicien et on a comparé le temps que ça prend pour notre recommandation, celle du groupe d'études, à d'autres façons de faire, comme par exemple à dire, ben, je vais commencer avec une ostéodensitométrie pour toutes les femmes en haut de 50 ans, ou même les femmes et les hommes, ou juste en haut de 65 ans. Donc, on a comparé différentes stratégies comme ça. C'est clair que la recommandation qu'on fait aujourd'hui, que le Task Force émet, ne prend pas plus de temps aux cliniciens. Puis aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que si on suit les recommandations, en plus que ça prenne moins de temps, ben, on le fait chez les personnes pour lesquelles il y a des données qui supportent le fait qu'ils ont probablement un bénéfice à être dépistés.
Oh,
Moi,
super.
j'entends mes collègues dire, oui, mais Guylaine, ça prend du temps, une décision partagée. Ben, la réponse un peu plate à ça, c'est de dire, ah, mais il y a une revue systématique de Cochrane qui dit que la décision partagée, ça prend 2,5 minutes. C'est beau, mais les cliniciens ont vraiment l'impression que c'est plus long que ça. Donc, on a fait de façon un peu informelle quand même un petit sondage où on a rejoint 90 médecins. Puis on leur a demandé la question, combien de temps ça prend de faire une décision partagée selon vous, que dans votre pratique? Et on arrive à 7-8 minutes, qui est plus long que 2,5 minutes. Mais même en prenant ce temps-là, la recommandation telle que formulée par le groupe d'études prend moins de temps, en fait. Et comme je le disais, cible vraiment les bonnes personnes, celles qui peuvent bénéficier du dépistage.
Merci, Guylaine. Mais peut-être que nos auditeurs aimeraient avoir un exemple pratique. Pouvez-vous nous donner un exemple de scénario pratique d'application de cette nouvelle ligne directrice par un médecin de famille?
Oui, je peux vous parler, mon Dieu, juste cette semaine, j'ai vu des patients. En fait, j'ai vu une patiente qui n'a pas de médecin de famille en ce moment. Donc, elle arrive, elle vient pour une represcription de ses médications pour la pression artérielle. Elle a 71 ans. N'a jamais eu d'ostéodensitométrie. En fait, ne connaissait pas vraiment cette problématique-là, n'ayant pas de médecin de famille depuis déjà plusieurs années. Donc, j'ai pris l'outil. En fait, le FRACS, comme je vous dis, c'est un outil, puis le groupe d'études fournit une interface avec le FRACS. Donc, vous pouvez accéder facilement à travers le site web à cet outil-là. Donc, vous rentrez là, l'âge de la patiente, si elle a déjà eu une fracture de fragilité, si elle prend des glucocorticoïdes, etc. Et ça vous donne son risque. Et là, visuellement, la patiente peut voir et vous avez des chiffres pour discuter avec elle. Et vous pouvez appliquer l'utilisation d'un bisphosphonate et voir à quel point ça pourrait réduire son risque. Donc, c'est sûr que moi, ma patiente, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait cet exercice-là, puis à la fin, elle a décidé que pour elle, les bénéfices potentiels d'une médication n'étaient pas assez importants, puis elle a décliné l'ostéodensitométrie. Des fois, j'en ai qui veulent une ostéodensitométrie, mais il y en a qui déclinent. Ce qui ne veut pas dire que là, on n'y a rien qu'on peut faire. Je pense qu'on peut quand même donner des conseils, hein, de promouvoir l'activité physique, la prévention des chutes, mais c'est pas qu'il faut absolument là, faire une ostéodensitométrie chez elle. Maintenant, je pense aussi que quand on parle d'applications pratiques, il y en a qui vont peut-être se dire, OK, mais je fais ça combien de fois avec cette patiente-là? Est-ce que je fais ça toutes les années? Ou, en fait, il y a très peu de données sur la fréquence optimale d'un dépistage. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que de le faire plus fréquemment qu'aux 8 ans, ça donne pas vraiment de bénéfice. En tout cas, ça semble pas donner de bénéfice. Donc, pour cette patiente-là, dans 8 ans, j'ai aucune idée quelle serait sa condition de santé, mais on pourrait considérer avoir une discussion avec elle. Ou s'il y a d'autres problèmes qu'elle développe entre-temps qui la met plus à risque d'une fracture de fragilité, on pourrait aussi là, reconsidérer cette discussion-là.
Et en plus, je pense que le patient apprécierait beaucoup cette évaluation détaillée.
Vraiment, moi, ça fait longtemps que j'utilise la décision partagée pour les dépistages de cancer du sein, rarement le cancer de la prostate quand j'ai encore des hommes qui m'en parlent, et pour les fractures de fragilité. Puis vraiment, les gens apprécient énormément parce qu'il faut savoir que on peut bien être les experts d'une maladie ou ici d'un facteur de risque, mais eux, c'est eux qui vont avoir à vivre avec soit les conséquences ou avec la prise de la médication. L'autre chose que j'ai pas dit, mais que j'aimerais peut-être souligner, c'est que on pense, on se dit, ouais, mais à ce risque-là, les patientes, il me semble qu'ils voudraient prendre une médication. Mais il y a des bonnes données qui nous montrent que ce que les médecins croient qui est un seuil acceptable pour un traitement préventif est quand même très différent de ce que les patientes croient qui est un seuil acceptable. Fait que les patientes sont prêtes à considérer un risque des fois qui est plus important que ce que les médecins pensent que les... Alors.
OK, Guylaine, grosso modo, si on devrait résumer notre discussion aujourd'hui, quel serait votre principal message?
Ça, c'est vraiment une bonne question parce que je ne sais pas si je peux avoir un seul message, mais est-ce que si vous me permettez, je vous en dirai quelques-uns, pas beaucoup, mais quelques-uns. Premièrement, une faible densité osseuse, là, ce concept-là d'ostéoporose, là, c'est pas une maladie. C'est vraiment la densité osseuse qui est un des facteurs de risque parmi d'autres. Et le fait d'étiqueter quelqu'un avec un nom, une maladie plutôt comme ostéoporose, ça a aussi des conséquences et il faut considérer ça. De dire à quelqu'un, vous avez l'ostéoporose, il y a des données qui nous montrent qu'ils vont faire moins d'exercices physiques parce qu'ils ont peur de tomber, par exemple. Ce qui est le contraire, en fait, on veut qu'ils fassent des exercices physiques. Ils ont aussi une qualité de vie qui est affectée. Bien sûr, moins que quelqu'un qui a une fracture, mais c'est quand même affecté comparé à quelqu'un avec lequel on a simplement partagé de l'information. L'autre chose que j'aimerais souligner, c'est que quand on compare ce que les médecins croient être un seuil acceptable pour un traitement préventif à ce que les femmes expriment, il y a vraiment une discordance significative. Donc, il faut vraiment éviter d'utiliser un seuil pour recommander une médication, mais bien avoir la discussion là, des pour et des contre de la médication. Puis je pense qu'en dernier, ce que je dirais, c'est que les données nous disent vraiment que ceux qui peuvent bénéficier d'un dépistage, c'est les femmes de 65 ans et plus. Malheureusement, il n'y en a pas de données pour les hommes ni pour les femmes plus jeunes qui nous permettent de dire qu'il y a un bénéfice. Donc peut-être ça va être intéressant à plus long terme d'avoir des données, d'avoir des études qui vont venir nous aider ou appuyer le fait qu'on ne devrait pas dépister ou qu'on devrait dépister, mais pour le moment, on a très peu de données et ils ne vont pas dans le sens de recommander un dépistage. Donc, pour conclure, moi, je dirais, n'hésitez pas à consulter notre ligne directrice, n'hésitez pas à aller voir sur le site web. On a notre outil que je vous ai décrit qui est une interface avec le FRAX et qui permet aux cliniciens de calculer le risque et surtout d'engager une conversation avec leurs patients.
Wow, c'est excellent, Guylaine, et ça va susciter beaucoup de réflexions, je suis certain. comprends? Voilà qui conclut notre discussion aujourd'hui. Nous vous rappelons que le guide et les outils d'aide à la décision seront tous disponibles sur le site web du groupe d'études le 8 mai 2023. La version française de la ligne directrice sera disponible plus tard vers le 29 mai. Merci beaucoup, Dr. Thériault. C'était un grand plaisir de discuter avec vous.
Merci beaucoup, Dr. Nain.